Bienvenue à l'Université de Gironde. Bienvenue à l'Université de Gérona. Je vais présenter votre rapport avec l'université et vos principales publications. Stéphanie Dossi est professora d'histoire de l'arte en la Universidad de Lille 3. Es investigadora de un grupo propio en arte medieval de esta universidad. Como especialista, ha tratado diferentes aspectos relativos a la arquitectura y la escultura gótica, pero también se ha interesado en otras cuestiones. Como son, por ejemplo, la epigrafía y la topografía, y igualmente el mobiliario litúrgico, aspecto del cual nos va a hablar hoy. Forma parte, juntamente con Arnaud Steinberg, que tendremos la ocasión de escuchar en segundo lugar, de los autores que tienen en común con diferentes publicaciones, como por ejemplo una publicación monográfica, La Catedral de Notre-Dame de Noyon. Perdón, ¿eh? Y igualmente ha organizado toda una serie de congresos y seminarios, por ejemplo, Espacio Urbain et Topographique de l'Artisanat de l'Art a Amiens, au Moyen-Âge, o también sobre la Catedral de Amiens, l'Estal de la Catedral de Amiens, o igualmente Restaurer ou Restituer la Sculpture au XIXe siècle, l'Exemple de la Picardie. Igualmente, otras monografías relativas a la Catedral de Noyon y la escultura del siglo XIII de la que hoy nos va a hablar. Es miembro finalmente del Comité Científico Materialité et Immatérialité de l'Église au Moyen-Âge. Le cedo la palabra.
Merci. Merci a Gerardo, bien entendu, de son invitation. Alors, le sanctuaire de la cathédrale de Noyon, tel qu'il se présente aujourd'hui, n'a conservé que les témoins architecturaux de ce qu'il fut au Moyen-Âge. Une grande campagne de réaménagement au XVIIIe siècle a très largement perturbé la vision que nous en avons aujourd'hui. Le jubé est détruit en 1756. Je vous le montrerai tout à l'heure. Le jubé était détruit en 1756. Les nouvelles stalles que vous voyez ici et les grilles de clôture ont été implantées en 1757 et des garde-corps ont été posés dans les tribunes du chœur en 1770. Un hôtel à la romaine a été édifié en 1777 à la croisée du transept, obligeant le déplacement du chœur des chanoines vers l'arrière du chœur. Durant la Révolution, la cathédrale souffre surtout dans son décor sculpté, mais ce fut la Grande Guerre qui acheva de la mutiler. Noyon est occupée par les Allemands dès le mois d'août 1914, mais elle reste intacte jusqu'en 1917, date à laquelle l'occupant se replie. Ce n'est qu'à son retour, en 1918, que les combats sont si violents qu'ils laissent la ville dans un champ de ruines. Durant la seconde moitié du mois de mai 1921, après que le dallage du chœur de la cathédrale de Noyon a été déposé afin de permettre l'établissement des échafaudages destinés à la réparation des voûtes du haut vaisseau, on découvre sous une mince couche de sable quelques fragments sculptés, en particulier dans la nef, à la croisée du transept et dans le chœur. À la faveur de cette découverte, Eugène Lefebvre Pontalis, invite l'administration des Beaux-Arts et la commission des monuments historiques à entreprendre une prospection archéologique systématique de la cathédrale de Noyon. Alfred Révillon, architecte, est attaché au chantier avec pour mission de le surveiller et de tenir un journal de ses découvertes, de relever l'emplacement des fragments recueillis, de les rassembler et au besoin de proposer des reconstitutions. Donc ce que vous voyez ici est la première page, les deux premières pages de son carnet de fouilles qu'il a commencé donc en 1921. Les fouilles que vous voyez ici se sont poursuivies jusqu'en 1923. Durant cette campagne, l'architecte réunit l'ensemble du lapidaire retrouvé et tente de le regrouper selon sa provenance. Ainsi prend forme le dépôt lapidaire de la cathédrale de Noyon, qui pourtant, jusqu'en 2002, reste à l'état d'abandon dans le grenier du réfectoire. Donc ici, vous voyez, quand Alfred Révillon a commencé à essayer de regrouper les fragments selon leur provenance, ici, en l'occurrence, le jubé qui a été retrouvé à la croisée du transept, enterré sous le dallage, qu'il a commencé à reconstituer progressivement, tel un puzzle, dans une des chapelles. La campagne d'inventaire de ce dépôt lapidaire, donc vous voyez en partie supérieure le dépôt lapidaire tel qu'il a été découvert en 2002 par notre équipe. Cette campagne a été menée dans un premier temps par mon collègue qui parlera juste après moi, Arnaud Timbert, et par ses étudiants de master. Dans un second temps, le chantier a été entrepris avec ma collaboration et a mené à la redécouverte progressive d'éléments provenant du décor qui jusque-là étaient inconnus, en l'occurrence le décor du sanctuaire de la cathédrale, qu'il s'agisse de celui du XIIe siècle ou de celui qui, dans un contexte politico-religieux trouble dont nous parlerons tout à l'heure, le remplaça au XIVe siècle. Cette redécouverte est d'autant plus importante qu'elle prend place aujourd'hui dans un autre contexte de réactualisation du mobilier liturgique, puisque le 5 décembre 2010 a eu lieu la consécration du nouveau mobilier liturgique de la cathédrale, issu en particulier d'une table d'autel que nous avons retrouvée dans le dallage et qui a remplacé l'ancien autel et a été restitué, je vous montrerai tout à l'heure des photos, dans un ensemble plus moderne. Alors, comme nous le savons, la liturgie et l'architecture entretiennent des rapports qui se traduisent en termes d'espace, d'agencement de volume et de circulation. Or, le sanctuaire de la cathédrale de Noyon, s'il a évolué dans le temps, offre les stigmates de ces divers agencements, lesquels éclairent sur l'interaction entre le contexte historico-religieux, les pratiques liturgiques et le bâtiment. Mais cerner les fonctions des différentes parties telles qu'elles se présentent aujourd'hui n'est pas aisé, puisque les traces des dispositions successives n'ont pas été conservées de manière exhaustive. Mais sur le fondement des textes que nous avons retrouvés et de l'analyse architecturale, en l'occurrence l'archéologie du bâti, l'analyse de la modénature, l'analyse des décors, mais aussi de la polychromie d'architecture, il a été possible de restituer deux aménagements successifs de l'espace oriental de la cathédrale au XIIe et au XIVe siècle, tous deux complémentaires dans la constitution de ce que l'on appelle une res publica uni una. Nous pouvons ainsi déceler une progression du moins au plus sacré et les multiples aspects qui attestent de l'holisme d'un lieu où tous les composants contribuent à unifier les sphères célestes et les sphères terrestres. Les espaces intérieurs de l'église du XIIe siècle sont décloisonnés, à Noyon en l'occurrence, et unifiés par la lumière. Il faut donc recourir à une syntaxe architecturale particulière pour marquer la différenciation et la hiérarchisation des parties qui composent l'édifice. Donc, je vous ai mis ici les seuls témoins anciens, les seuls documents anciens que nous avons sur le mobilier liturgique qui avait disparu, et à partir desquels nous devions travailler, donc en l'occurrence à partir de pas grand chose, si ce n'est à partir de l'archéologie même existante. Donc en haut, l'armoire reliquaire qui date du XIVe siècle, ce qu'on appelle un édicule de chasse, la partie supérieure de l'édicule de chasse, donc on reverra tout cela tout à l'heure, et en dessous un dessin du jubé tel qu'il avait été établi avant sa destruction. Alors, dans la mise en place de la différenciation et de la hiérarchisation des parties qui composent l'édifice et qui nous orientent de manière à comprendre comment s'organiser les espaces liturgiques, nous avons effectivement tout un vocabulaire qui a été agrégé. Et en particulier, ceci a bien entendu lieu dans tous les édifices chrétiens, mais à la cathédrale de Noyon, plusieurs de ces éléments ont été fédérés. Ainsi, la perspective de la nef guide le regard de l'ouest vers l'est grâce à des lignes lithiques que vous voyez ici et polychromes qui ont une valeur cinétique, c'est-à-dire qui dirigent le regard jusqu'à l'endroit le plus sacré, à savoir le sanctuaire où se trouve l'autel et le lieu de la plus haute sacralité. Ainsi, les lignes horizontales sont soulignées d'une polychromie ocre rouge à valeur polarisante qui dirige le regard vers le sanctuaire, qu'il s'agisse des minces filets rouges que nous voyons à ce niveau-ci, ou encore ici du filet rouge qui souligne la modénature des ogives et qui permettent de scander la nef horizontalement jusqu'au sanctuaire. Filet rouge qui ne se retrouve plus dans le sanctuaire, bien entendu. Donc les travées régulières sont voûtées d'ogives et rythmes sur la longueur, et le filet horizontal, aussi bien la modénature que le filet rouge sur cette modénature, participe à ce mouvement du regard. Le chancel, en outre, que nous avons matérialisé ici sur le plan, marque évidemment la limite entre les deux espaces, l'espace des fidèles et l'espace le plus sacré qui est celui du sanctuaire. Alors, à Noyon, nous n'avions aucun indice sur ce chancel, aucun texte, et jusqu'à cette année, personne n'avait jamais émis la possibilité de son existence. Mais il est possible qu'à Noyon, justement, où les chanoines ont la cura animarum, l'entrée du sanctuaire, abritant l'autel du XIIe siècle, ait été située dans la première travée droite, valorisée par des arcs doubleaux et par des grandes arcades, ici au rez-de-chaussée, dont l'écriture diffère des deux suivantes. Donc vous voyez ici la voûte d'ogive de la première travée où se trouvait l'autel du XIIe siècle, et ici le traitement différent de cette travée-ci qui est la première où se trouvait l'autel et de la seconde travée ici qui est totalement distincte. Ici, le chœur des chanoines comptait 60 prébendes. Ce qui est considérable, puisque la cathédrale de Noyon est une petite cathédrale et qui fait à peu près la moitié de celle de la cathédrale d'Amiens, où Amiens nous avions à peu près le même nombre de prébendes. Donc nécessairement, le chœur de chanoine devait déborder de beaucoup dans la nef pour laisser place au siège des stalles, qui avoisinait forcément la centaine, afin d'accueillir non seulement les chanoines, mais aussi les dignitaires, les chapelains et les enfants de chœur. Néanmoins, cette disposition primitive n'a laissé a priori aucune trace. Le chancel était sans doute à cette époque pourtant relativement bas, peu occultant, et laissant voir aisément le maître-autel dans le sanctuaire. Et si l'on observe bien ici l'architecture, on s'aperçoit qu'il est peut-être possible d'imaginer la présence de ce chancel entre la quatrième et la cinquième travée de la nef, ou un fort arrachement à l'est des piles fortes et à l'ouest des piles faibles semble témoigner de la présence d'un mobilier qui aurait été arraché. La valorisation, en outre, de la dernière travée de la nef, travée qui est liée au bras du transept par des corniches et des rouleaux qui sont identiques, par des bases qui se trouvent au même niveau que celles du chœur et du transept, par des ouvertures trilobées qui sont également communes à celles du transept, et par des bagues de piles faibles qui sont aussi identiques à celles du transept, cette travée incite à voir l'emplacement éventuel du début du chœur liturgique. Car la présence en cet endroit, vers le haut vaisseau, de masques sculptés sur les consoles des piliers occidentaux du transept pourrait conforter l'hypothèse de cette disposition. L'avancée du chœur liturgique dans la nef, n'interdisait cependant pas l'accès au déambulatoire pour les pèlerins désireux de visiter les reliques saintes du lieu. Ceux-ci accédaient à cet espace, donc vous voyez ici la matérialisation du chancel et ici la matérialisation des grilles qui clôturaient l'espace du sanctuaire. Donc les pèlerins qui désiraient voir les reliques qui étaient conservées ici entraient par le bras nord du transept. Quand les grilles étaient ouvertes, pouvaient faire le tour ici et voir les reliques au travers des grilles qui étaient ajourées et ressortir ici par le portail Sainte-Trope, ainsi qu'à Cloucester ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, où un même cheminement est connu. Donc, l'avancée dans le chœur liturgique de la nef n'interdisait pas l'accès au déambulatoire et les pèlerins pouvaient aisément observer les reliques au travers des clôtures ajourées. Et la richesse du décor sculpté, aujourd'hui disparu, témoigne de la fonction de passage de ces deux portails. Donc ici, vous voyez le portail sud qui ouvrait à l'extérieur des murailles de la ville et à l'extérieur du palais épiscopal. Le portail sud qui devait être consacré, d'après ce que l'on en sait, aux prophètes qui prenaient place dans les ébrasements du portail et probablement au couronnement de la Vierge dans le tympan. Alors voici les quelques sculptures que nous en avons conservées, en l'occurrence ici deux prophètes qui sont conservés au Metropolitan Museum de New York, dont l'analyse pétrographique confirme la provenance de la pierre en Picardie. Et ici le portail nord qui donne de l'autre côté également de la muraille et qui sort vers l'église Saint-Pierre qui lui fait face, qui était un endroit où très probablement devaient passer les processions de reliques. Portail sur lequel, contrairement à l'autre, nous avons conservé aucune sculpture, mais où une seule source d'un chanoine du XVIIe siècle évoque les statues de Sainte Godbert et de Saint Éloi, qui sont les saints évangélisateurs de la ville de Noyon, dans les ébrasements au pied duquel un doyen du chapitre s'est fait inhumer au XIVe siècle, et puis dans cet autre texte, l'évocation d'un Christ entre deux anges sur le tympan. Alors aujourd'hui, les colonnettes que vous voyez ici sur les ébrasements empêchent d'imaginer la présence de ces statues, mais ces colonnettes sont des restaurations du XIXe siècle qui datent de 1853. Alors bien sûr, le décor intérieur du sanctuaire est également invoqué pour valoriser celui-ci. Néanmoins, la cathédrale de Noyon n'a conservé aucun décor peint datable de la construction du chœur et du sanctuaire. Mais plus encore que cette décoration peinte éventuelle, il semble que l'accent ait surtout été mis à noyon sur le projet lumineux du lieu, qui symboliquement a pour fonction de valoriser l'espace le plus sacré, ce d'autant plus que la lumière est bien entendu, depuis l'origine de l'Église, associée au Christ ressuscité et donc à l'autel du sanctuaire. Cette mise en scène du sanctuaire fournit une ambiance lumineuse exceptionnelle aux cérémonies qui se déroulent à l'autel et aux offices des moines qui se déroulent dans le chœur. À noyon, vous le voyez ici, la minceur des supports du rond-point, les larges ouvertures vers les chapelles rayonnantes qui sont abondamment dotées de baies, les tribunes ouvertes à l'étage et les baies hautes dote le sanctuaire d'une très vive lumière. L'impression initiale, malgré tout, que vous en avez devant cette photo est biaisée par la disparition des vitraux que nous ne connaissons malheureusement pas. Cette lumière s'associe, comme à Cluny, au chant sacré de la liturgie que nous savons avoir été valorisé à noyon. Alors ici, donc, un petit montage qui évoque le chant liturgique, l'échange entre le chant des enfants de chœur et des poëris qui étaient dans les tribunes et les chanoines qui prenaient place dans les stalles au rez-de-chaussée, au premier niveau. Et ici, le caveau phonocantique qui prend place sous l'autel initial de la cathédrale et qui témoigne de cet intérêt pour la valorisation du chant sacré dès la construction même de la cathédrale. Donc, les jeunes choristes, les poëris, chantés depuis les tribunes, comme le montrait le petit montage de tout à l'heure, symbolisant le chœur angélique, répondant en miroir au chœur des chanoines qui prenaient place au premier niveau. Leur présence à noyon est symbolisée par des têtes qui sont insérées dans les doubleaux entre les ogives des voûtes de la tribune, dont la bouche ouverte pourrait, étant au conditionnel, pourrait signifier le chant, et par un ange que vous voyez ici sculpté contre la paroi des premières travées nord et sud. Donc je vous ai mis l'ange qui se trouve sur la paroi tournante nord, celui du sud ayant été en grande partie bûché. L'ange, bien sûr, indique le caractère divin de la liturgie célébrée ici-bas. Il est le médiateur entre les hommes et la divinité, d'où son emplacement logique dans les tribunes de chœur. Il n'est pas exclu que ces anges, aujourd'hui mutilés, aient pu permettre de visualiser la réalité immatérielle de la liturgie céleste pratiquée dans le même temps, lors des chants et des oraisons de la messe, que la liturgie terrestre. En outre, le programme angélologique de la tribune de chœur est affirmé par sa chapelle axiale, qui était dédiée à Saint Michel, ainsi que nombre de chapelles hautes de tradition carolingienne. Des descriptions d'offices solennels laissent percevoir l'impact sensoriel de la pratique liturgique du lieu. Nous savons, alors que l'évêque officie suite à son entrée, qu'il prend place dans une chaire au côté droit du sanctuaire, attenante à la dernière stalle qui est celle de l'archidiacre. Tous se tournent alors lors de cette cérémonie vers l'autel et chantent le Te Deum en musique au son de l'orgue et de toutes les cloches de l'édifice. Ensuite, l'évêque revient vers l'aigle lutrin et chante le verset Salvum tuum à l'oraison Deus Fidelium Pastor. Pour les 6 jours auxquels il doit en outre office, c'est-à-dire Pâques, la Pentecôte, la Saint-Médard, la Saint-Éloi l'été et l'Assomption de la Vierge, ainsi que la Nativité, 2 chanoines revêtus de chapes chantent en bas des degrés du sanctuaire avant d'introduire les laudes qui commencent par Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Le chœur leur répond et acclame l'évêque, le roi, la reine, les juges et les armées. L'évêque mitré est assis dans un fauteuil sur le marchepied du sanctuaire, adossé à l'autel. Les deux chanoines montent alors et s'avancent au milieu du sanctuaire, s'inclinent vers l'évêque, lui remettent sa crosse et échangent un chant avec le chœur. Le diacre, à droite du prélat, à demi tourné vers le pupitre, annonce la bénédiction de l'hostie par les paroles « Preparole vos ad benedictionem ». Ainsi voyons-nous combien interagissent entre elles les productions artistiques destinées au rituel, notamment ici les objets liturgiques, et les éléments constitutifs de la liturgie médiévale, à savoir les textes sacrés, la lumière, les acteurs du rituel, l'organisation spatiale de la cérémonie, les sons des chants et des instruments, et les odeurs, non évoquées malheureusement par les textes, de l'encensement. En outre, les grilles qui clôturent le sanctuaire, que j'avais matérialisé tout à l'heure par un trait vert sur le plan, n'obturent pas la lumière de cet espace, qu'elles contribuent au contraire à unifier. Nous en connaissons les dispositions et la forme grâce à cette unique gravure des albums Guénières, où l'on voit le monument funéraire du cœur de Charles de Balzac, évêque de Noyon décédé au XVIIe siècle. Tombeau qui s'élevait dans le chœur, proche de la porte de l'Évangile, côté sud. En arrière de la colonne de marbre, qui donc date du XVIIIe siècle et qui supporte le priant du défunt, figure une grille ouvragée. La gravure n'indique pas tous les détails et il est impossible de savoir si les brindilles du chancel se terminaient par les ornements enlevés à chaud au moyen d'une matrice en fer trempé, ainsi qu'il en fut au XIIe et au XIIIe siècle à l'abbatiale de Saint-Denis ou encore à Saint-Germain-de-Fly que vous voyez ici. Toutefois, la structure qui combine des panneaux d'ornement qui forment des modules entre des montants et des traverses rappelle les belles clôtures de Saint-Germain qui associent rinceaux et tiges terminées par des fleurettes à pétales. La régularité des fers de cette clôture et des motifs, la résille serrée, les volutes soudées par des embrases, et les épis évoquent la grille de conques que vous voyez ici, qui date de la fin du XIIe siècle, et les pentures très parallèles appellent une comparaison également avec la grille de Billon en Auvergne, que vous voyez ici. Aussi, la clôture noyonnaise aurait été mise en place peu après l'achèvement du chœur de la cathédrale, entre 1170-1185. Et le trilobe que vous voyez sur cette clôture ici, ce trilobe a à un moment donné autorisé certains chercheurs à dater cette clôture beaucoup plus tardivement qu'elle ne l'est en réalité. Et nous savons que ces trilobes datent de cette période 1170-1185, car nous les retrouvons ici dans l'arcature aveugle qui souligne les baies hautes du cœur de la cathédrale et qui sont les premiers témoins de ce vocabulaire formel en Picardie avant 1200. Enfin, ici, l'agneau qui figure sur la clé de voûte de l'abside est en relation spatiale directe avec le sanctuaire et l'autel matutinal. Les clés de voûte des troisièmes travées des collatéraux, David au nord, Saint-Jean pleurant au sud, et de la travée axiale du déambulatoire, le Christ bénissant, confirme la thématique eucharistique et sacrificielle du lieu en renvoyant à la révélation de Saint Jean, chapitre 5, versets 4 et 5. David symbolise l'union de la divinité et de l'humanité du Christ, et Saint Jean incarne l'Église accablée du poids des péchés de l'humanité, priant pour la venue du Rédempteur. Il figure la Nouvelle Alliance. Le programme noyonné est sans doute appréhensible comme une souvenance carolingienne, sachant que le commentaire de l'anglo-saxon Alcuin, savant maître d'Aix-la-Chapelle, renouvela l'intérêt du texte des révélations de Saint Jean à la cour de Charlemagne, que nous savons historiquement particulièrement lié à l'évêché de la cathédrale de Noyon. Si la présence figurée de David à Noyon n'a pas manqué de soulever les remarques sur son unicité, et si plusieurs apocalypses enluminées ont été rapprochées du programme sculpté de cette cathédrale, il nous semble opportun de souligner que quelques-unes plus tardives, quelques-unes des miniatures plus tardives des années 1255-1260 ont un modèle commun et fournissent un point de comparaison substantiel avec ce programme iconographique du sanctuaire de la cathédrale. Ainsi, la miniature du Pierpont Morgan, d'un manuscrit de la Pierpont Morgan Library à New York et un autre de la Bodleian Library à Oxford présente sur deux niveaux de lecture la vision de l'ouverture des portes du paradis et le Christ parmi les vieillards associé aux figures et aux symboles de Noyon. Saint Jean en pleurs, consolé par le vieillard dont le rouleau porte l'inscription Ne fruiris excevisit Leo de tribu Iuda radix David, aperire librum et signacula eius. En l'occurrence, radix David, qui figure donc en pied sur la clé du bas-côté nord du chœur de la cathédrale de Noyon, et l'agneau mystique dans l'axe des pieds du Christ souffrant, ainsi qu'aux clés du rond-point et de l'axe du déambulatoire. Dans l'association des images du Christ agneau et du roi, les deux souverains par excellence sont en outre glorifiés en une relation qui évoque la théologie politique carolingienne qui assimilait l'un et l'autre. Il est toutefois à noter que le programme noyonnais devait se complexifier davantage, ainsi qu'en témoignent les trous présents sur les clés de voûte du déambulatoire qui signalent un ancien décor aujourd'hui disparu. La réminiscence carolingienne et la portée théologique du thème n'en sont pourtant pas minorées, ni la participation active du décor en tant qu'application du livre de l'Apocalypse au temps de l'action liturgique. À Noyon, donc, le sanctuaire était initialement, à la fin du XIIe siècle, valorisé par une écriture architecturale et une intensité lumineuse pensée, le chœur limité par un chancel et une clôture basse et légère, une grille en fer forgé, devait le clore. À la fin du XIIIe siècle et au début du siècle suivant, dans un contexte politico-religieux extrêmement conflictuel, le chœur et le sanctuaire sont réaménagés, cette partie de l'édifice devenant une église reliquaire à l'intérieur même de l'église collégiale. Ainsi, en 881, les reliques de saint Éloi, évangélisateur de la ville de Noyon, sont enlevées du monastère Saint-Loup ou saint Éloi de Noyon, qui est à très petite proximité de la cathédrale, et placées en l'oratoire Saint-Benoît de la chapelle épiscopale. Elles sont ensuite, en 1066, translatées par l'évêque Baudouin dans une châsse en or placée sous le maître-autel de la cathédrale. Alors, bien entendu, ici, c'est la châsse du XVIIIe siècle, la châsse initiale ayant disparu. Le 25 juin 1157, alors que le nouveau chœur de Notre-Dame est achevé et rendu au culte, les reliques sont déposées dans une seconde châsse en bois, recouverte d'or. Mais le 7 juillet 1253, le pape Innocent IV accorde 40 jours d'indulgence à qui visiterait la cathédrale le jour de la Saint-Éloi. Alors, les religieux de l'abbaye éponyme protestent, prétendant posséder les véritables reliques du saint, qui en réalité leur ont été spoliées au IXe siècle. Ils engagent un procès en cour de Rome le 16 octobre 1253. La châsse est donc à plusieurs reprises ouverte en 1253 et en 1255 afin de contrôler la légitimité du dépôt. Il y a un problème, l'authentique de 881, donc la première, est effacée et cela encourage les plaignants dans leur position. Le conflit va durer très longtemps, il ne sera clos qu'en 1462. Il est donc à son apogée quand le 23 août 1306, les précieuses reliques de Saint-Éloi sont transférées en grande pompe dans une nouvelle châsse, plus précieuse encore que les précédentes. À l'occasion de ce conflit, de cette translation, voire dès la naissance du conflit, le chapitre et l'évêque souhaitent magnifier la présentation de cette prestigieuse châsse en or contenant le corps du saint patron, en plaçant celle-ci et peut-être d'autres reliquaires dans un édicule architecturé, ainsi que nous en voyons un exemple ici sur un manuscrit enluminé de la bibliothèque de Mâcon. Donc ici, l'édicule qui abrite une châsse. La nouvelle châsse, donc, à Noyon, et son édicule, qui devait ressembler à celui-ci, ont dû être mis en place de concert, conjointement ou peu après l'édification du maître-autel qui date du XIIIe siècle. L'éventualité d'un jubé qui aurait été conçu dans le même temps que cet édicule de châsse et cette châsse reste à examiner au vu des témoins polychromes et sculptés qui sont subsistants. Néanmoins, il est certain à l'analyse stylistique qu'une datation de celui-ci dès la naissance du conflit concernant les reliques de Saint-Éloi, voire à l'occasion de la translation de ces reliques, est envisageable. De plus, une large partie du mobilier et du décor du chœur liturgique semble avoir été revue à l'occasion de cette translation des reliques de Saint-Éloi. Voici donc ici le jubé que nous datons probablement soit de la naissance du conflit, soit de la translation des reliques. Et ici le mobilier que nous avons conservé à état très fragmentaire ou dont nous avons des témoins iconographiques. Donc, outre l'armoire peinte du début du XIVe siècle que vous voyez ici, qui est connue par d'anciens clichés et d'anciens relevés et qui n'existe plus aujourd'hui que dans son armature, c'est pour ça que je ne vous en montre pas le cliché. Nous connaissons d'autres mobiliers de ce sanctuaire qui datent de cette époque, en l'occurrence ici le réchaud en fer forgé, monté sur pied à roulettes, maintenu par essieux, qui comporte en partie supérieure un bac rectangulaire ajouré. Des anneaux placés de chaque côté permettaient sa manutention. Forme et structure de cet objet peuvent indiquer une datation au XIVe siècle. Le meuble servait à disposer la braise à hauteur de la capsule de l'encensoir du turiféraire. Son emplacement originel peut avoir été autant dans la sacristie qu'à proximité de l'officiant dans le chœur, où il était encore utilisé il y a peu, puisqu'il y a à peine quelques mois que la conservation de la ville de Noyon a pu ôter ce brasero des mains du clergé qui l'utilisait encore. En outre, nous connaissons également un grand chandelier à broche sur trois pieds, en fer forgé de section circulaire, ceint de baguettes et de liens à cordons, qui s'achève par de petits pistils enroulés en boule à hauteur de la tige et qui présentait des roses décoratives, et qui a été rapproché d'un autre flambeau de chœur transformé en l'église de Brive, à côté de Limoges. Son style se situe à la fin du XIIIe ou au XIVe siècle et autorise à localiser ce grand chandelier entre le sanctuaire et le chœur de la cathédrale à cette période, ainsi par exemple que celui de la cathédrale d'Angers. La proposition d'un édicule monumental dans l'espace du sanctuaire, de même que la suggestion d'une reprise générale ou partielle du mobilier, coïncide, quoi qu'il en soit, avec les observations faites sur la polychromie de l'ensemble de l'édifice et sur la mise en valeur du chœur, peint dans le même temps dans les arcades du faux triforium de personnages de l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui, malheureusement, les personnages ne sont pas visibles. Nous avons seulement sur deux, au-dessus de deux arcades, quelques éléments qui permettent de voir que des noms figuraient tels des banderoles au-dessus de ces arcades. Et les noms, en l'occurrence, ne sont pas effacés, mais juste présents sous un léger badigeon blanc clair, crème. Le projet avait été, à un moment donné, d'obtenir un financement par le biais d'une ANR, pour pouvoir mettre à jour cette polychromie, entre autres de nombreux travaux que voulait exécuter mon collègue Arnaud Timbert dans le cadre du groupe de recherche sur cette cathédrale, budget qui, pour l'heure, nous a été refusé. Voilà. La proposition donc d'un édicule monumental dans l'espace du sanctuaire, de même que la suggestion de la reprise du mobilier, coïncide avec les observations que nous avons faites sur cette polychromie, puisque les personnages que nous savons avoir été peints dans ces arcatures du faux triforium et qui ont été évoqués par un texte du XVIIe siècle, écrit par le chanoine Levasseur, qui était un des chanoines de la cathédrale, ont pu être observés en particulier par Géraldine Victoire, qui a fait ses études au Kurtz avec Tom, en l'occurrence. Et cette polychromie semble totalement intacte et du XIVe siècle, n'ayant été donc que légèrement badigeonnée au-dessus. Ainsi, la volonté d'asseoir la légitimité des reliques des lois en la cathédrale de Noyon aurait pu conditionner une grande campagne de décoration au début du XIVe siècle, dont les fragments fleur-de-lycée de l'édicule de chasse sont les témoins jusqu'alors ignorés. Donc les fragments fleur-de-lycée que j'ai omis de mettre, je vous remonte tout. Voilà, ici, ce serait la seule partie conservée de l'édicule de chasse qui aurait mis en valeur la chasse en elle-même et qui aurait participé à ce grand décor avec le mobilier liturgique, l'armoire, le chandelier, le brasero et la redécoration en peinture de l'ensemble du sanctuaire. Ajoutons qu'à la Sainte-Chapelle, comme à Beauvais, à Chartres ou encore à Arras, ici à la Sainte-Chapelle en l'occurrence, l'édicule ne surmontait pas le grand autel, mais qu'il était situé derrière celui-ci, au-dessus de l'autel des reliques. Un meuble identique, c'est-à-dire un autel de reliques, existait bien à Noyon en 1333, et une disposition analogue peut donc être envisagée ainsi que celle de la Sainte-Chapelle. Nous avons par exemple trouvé deux textes, un aux archives départementales de l'Oise qui dit « Item anglico » alors excusez mon latin plus qu'approximatif dans la prononciation, « Item anglico le imagier procibuscu » Quibus dam sui operis refectis in imaginibus et equo super altare reliquiarum sitis. Et Hôtel des Rétros, qui est aussi cité par Jules Levasseur au XVIIe siècle, imaginez Caroli Magni collocanta in capella sancti eligi retrocorum in fronte ecclesiae. Et De Braccio Sancti Eligi Episcopi, quod quidem reposuit supra un altare retro amias altare cori, dicte Ecclesiae Siti, decenter ornate. Deux textes qui prouvent donc qu'un autel des rétro existait bien à la cathédrale de Noyon. Alors bien sûr, l'armoire reliquaire peinte, connue par ses vestiges et par les gravures, pourrait, d'après son importance, sa magnificence et sa datation, avoir été dressée à proximité de cet autel. Elle était peinte en damier de façade de 8 personnages saints, dont la cathédrale possède les reliques. Saint Godbert, Saint Éloi, Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin, Saint Denis, Saint Maximien, dont les reliques sont évoquées par Levasseur comme étant situées derrière le grand autel, resserrées dans une armoire à côté gauche. Le revers des vantaux de cette armoire cachait des anges porteurs de cierges et d'encensoirs, évoquant leur fonction liturgique et cultuelle autour du trône de Dieu, figuré au pignon central du toit de l'armoire, ainsi que des anges musiciens, dont la musique s'apparente au son harmonieux des cohorts célestes, justement. L'iconographie du meuble souligne donc une fois encore la participation active de l'objet cultuel à la définition de la liturgie et à sa signification, en établissant matériellement la relation avec le culte des reliques et les rituels de l'Église, ainsi qu'en évoquant visuellement les images qui participent à la dimension sensorielle de la liturgie médiévale, le luminaire, l'encens et le chant. Les dimensions de la partie conservée de l'édicule de chasse permettent l'insertion sous-jacente d'une ou plusieurs chasses sur sa longueur. Ainsi, il a fallu réfléchir sur l'orientation de cet édicule de chasse au sein du sanctuaire. Une orientation du monument dans l'axe du sanctuaire, tel celui de la chasse de Saint-Sébald à Nuremberg, à l'extrémité du rond-point, aurait permis de placer l'abside micro-architecturée de l'édicule dans le sens de la cathédrale, le pignon occidental ayant laissé voir le précieux reliquaire ainsi qu'à l'abbatiale Saint-Denis, donc du côté occidental. Nous n'excluons pourtant pas une disposition transversale de l'édicule sous lequel auraient été présentées plusieurs chasses selon le même dispositif que celui figuré sur le vitrail de Saint-Charlemagne à la cathédrale de Chartres. Un unique reliquaire pouvait aussi être également présenté sous cet édicule, placé sur la longueur, de même sorte que celui justement de Saint-Éloi que nous voyons peint, pour ce qu'il en reste, sur la paroi orientale de la chapelle dédiée à Sainte-Godberthe, à la cathédrale de Noyon. Donc ici, vous avez le relevé fait par Géraldine Victoire de la chasse de Saint-Éloi, et qui donc se figurait, se présentait de manière longitudinale, de manière transversale, pardon, et non pas de manière longitudinale. L'importance du culte de Saint-Éloi et le contexte surtout du mobilier, dans lequel le mobilier liturgique et le décor du chœur sont repensés au début du XIVe siècle, parlent, à notre avis, en faveur de l'hypothèse d'une chasse de saints qui aurait été privilégiée et qui aurait donc été disposée seule, transversalement ou longitudinalement. Dans ce cas, les chasses secondaires auraient été présentées de part et d'autre, indépendamment, tel que sur le plan figuré de la partie orientale de l'abbaye Saint-Augustin de Canterbury. Le sanctuaire noyonné aurait donc présenté une disposition largement centrée sur les reliques saintes, disposée en une corolle qui évoque l'organisation de l'église carolingienne d'Agnan. Similairement, la cohorte sainte protège autant la construction spatiale que l'institution de l'église, fortement ébranlée donc à Noyon à cette époque. Une telle démarche de réaménagement de l'espace oriental de la cathédrale de Noyon a pour fin de légitimer le pèlerinage des fidèles à la cathédrale plutôt qu'à l'abbaye de Saint-Éloi de Noyon, tout en s'intégrant dans un processus de sanctuarisation du chevet. S'ajoute que la mise en valeur des ossements noyonnés dans ce climat participe à la monumentalisation du culte des reliques et s'associe à la liturgie et à la célébration de l'Eucharistie par la communauté au-devant de l'autel matutinal. Les fidèles, autorisés à certaines occasions à franchir les grilles qui les séparaient du déambulatoire, peuvent alors regarder l'autel des reliques depuis cet espace de circulation, au travers des grilles à claire-voie qui ferment le sanctuaire depuis l'orée du XIIIe siècle. Depuis la nef même, l'édicule de chasse, bien sûr, porte sans doute plus haut que le jubé, d'autant que nous savons que le sanctuaire est surélevé de quelques degrés. Quoi qu'il en soit, cet édicule devait être visible au travers de l'arcature ajourée du jubé, ce qui permettait de manifester aux fidèles la présence des saintes reliques en dépit de cette clôture matérielle. Un même phénomène est décrit à la cathédrale de Chartres, où le fidèle, en pénétrant par le portail occidental, discerne derrière le jubé l'édicule qui est au moins aussi haut que les grandes arcades du chœur et qui s'élève à 5 ou 6 toises de haut, disposées en 3 étages pyramidants qui abritent les châsses et les reliquaires entre les piles de la travée axiale du rond-point. Et c'est ainsi que nous l'imaginons à la cathédrale de Noyon, puisque aucun élément archéologique dans l'observation du bâti ne permet d'imaginer que cet édicule de châsses ait pu ne serait-ce que s'accoler contre les piles du rond-point. Il devait donc être longitudinal et se présenter ainsi qu'à la cathédrale de Chartres, de manière surélevée par rapport au jubé. À Noyon, en l'occurrence, la polychromie de ce dé architecturé monumental que nous avons observé à la loupe binoculaire montre des reliefs dorés sur fond blanc, ainsi qu'une orfèvrerie. Et cette polychromie, bien entendu, participe à la magnificence et à l'intensité lumineuse du sanctuaire. Les matières précieuses ont un rôle éminent. L'or est une lumière et le blanc est chargé de la plus haute dignité. Donc ces deux couleurs chargées sur l'édicule de châsse le présentaient vraiment telle une orfèvrerie totalement lumineuse, visible au travers de ces arcades ajourées du jubé. Les matières précieuses ont un rôle éminent dans la mise en action de l'objet dans la performance liturgique, ce qui atteste ici de la fonction déterminante jouée par l'édicule dans le sanctuaire noyonné. Par le sens de la vue, notamment, l'objet rend possible l'accès à l'essence des choses, à l'invisible. Ici, dans le cadre des reliques qui sont vénérées, Ici, dans le cadre des reliques qui sont vénérées, il s'agit d'un phénomène qui renvoie à l'idée de la présence divine dans l'Eucharistie. De plus, la lumière qui émane de cet objet, châsse dorée et gemmée autant que l'édicule qui surplombe cette châsse, et celle du lieu, est une métaphore de la théologie chrétienne. De l'ombre intérieure du fidèle et de la nef, le cheminement se fait vers la lumière du sanctuaire, guidé par la vue des reliques saintes de saint Éloi. Châsse et édicule étaient donc au cœur du système liturgique des célébrations, ainsi qu'en nombre d'édifices gothiques, bien entendu. Le programme peint des arcades aveugles situées sous les fenêtres hautes que nous avons évoquées tout à l'heure des personnages de l'Ancien Testament, dont les vestiges témoignent d'une exécution probable au début du XIVe siècle, dans le même temps sans doute que le réaménagement du mobilier liturgique, participe de ce cinétisme et de la mise en action de la performance rituelle. Là, les sources évoquent la représentation donc de personnages de l'Ancien Testament, mais aussi de la Vierge et de l'histoire des rois mages. Il est possible, on dit bien possible, que les patriarches y aient figuré sur le modèle antique, bien entendu, des églises paléochrétiennes telles que Sainte-Sophie de Constantinople ou encore Doride. En outre, l'abside figurant l'autel céleste, un effet de miroir peut associer les figures peintes et les personnages vivants que sont les chanoines et l'évêque. Le collège peint peut ainsi avoir figuré la communauté religieuse de la cathédrale et par conséquent glorifier et consolider l'identité d'un groupe qui, en cette période conflictuelle, se sent menacé dans son autorité, en l'occurrence par l'abbaye Saint-Éloi. Dans ce cas, peut-être faut-il voir un lien entre cette peinture de l'abside et du chœur et les sculptures du jubé, que nous savons, par la tradition iconographique, avoir représenté les patriarches. Ainsi, cette peinture inscrit au sein des arcades occidentales les statues des apôtres et les statues des prophètes jointes à celles qui sont peintes en dessous des fenêtres hautes. Ce nouvel écran, qu'est le jubé de la cathédrale, est érigé entre les piles occidentales de la croisée du transept, reculant probablement le cœur liturgique des chanoines d'une travée vers l'est. Alors, pardon, vous voyez ici la disposition telle qu'elle a été expliquée tout à l'heure à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe, et ici le recul du jubé d'une travée vers l'Orient. Alors, ce recul probable du cœur liturgique des chanoines vers l'Est est une disposition qui répond sans doute aux préoccupations, bien entendu, du Concile de Lactre en 4 en 1215, en ouvrant davantage l'espace de la nef aux fidèles. Ainsi, la liaison entre le cœur et le sanctuaire est limpide. Dans l'association entre l'édicule, les châsses, les images peintes du cœur et les sculptures du déambulatoire et de l'abside que nous avons vues tout à l'heure et qui datent du XIIe siècle, nous retrouvons, comme à la cathédrale d'Angers au XIIIe siècle, le symbole d'un édifice considéré comme un immense reliquaire, au même titre qu'à la Sainte-Chapelle de Paris. Cette disposition des lieux atteste d'un culte centré sur les reliques saintes, portées en procession, puis exposées derrière l'autel, et la consécration de l'autel. Mais comme le souligne notre collègue Éric Palazzo, l'interprétation théologique et liturgique doit s'accompagner d'une lecture politique du rôle des reliques dans l'Église, et c'est ainsi que nous l'avons envisagé et présenté. Noyon en témoigne, l'édification d'un édicule de châsse et le réaménagement du mobilier liturgique autour de l'événement de la translation des reliques de Saint-Éloi dans un contexte politique trouble et tendancieux permettent d'insister sur la légitimité de la congrégation et placent l'édifice comme une image de la communauté chrétienne et des saints. La Vierge, qui est peinte également dans l'arcature que nous avons évoquée, en tout cas d'après les sources, souligne les fenêtres, qui, dans cette arcature qui souligne les fenêtres hautes, figure l'Église, la maîtresse de vie intérieure, le temple vivant de Dieu, dont le temple est le tabernacle du Christ d'après Pierre Damien. Elle renvoie symboliquement à la présence réelle du Christ dans le sacrement et décore le sanctuaire au même titre que d'ordinaire la majesté divine. Elle incarne aussi ce que le fidèle doit réaliser dans son âme par la foi et les œuvres, ce qu'elle-même elle a conçu en sa chair. Sa représentation au sein de l'espace le plus sacré de l'Église en souligne la fonction du lieu, celui de tabernacle, et renvoie à la confusion entre la persona ecclesia et la persona fidelis. Au même titre que le rituel est l'expression de la construction du temple intérieur de chacun, la Vierge est le modèle de ce que l'homme doit entreprendre au plus profond de lui-même afin de devenir, à son instar, une image de temple de l'Église. Enfin, la figuration des rois mages qui accompagne cette image de la Vierge dans le sanctuaire souligne aussi la sanctuarisation du chevet par la connexion du thème avec la procession eucharistique et le miracle de la transsubstantation qui se déroule sur l'autel. Les offrandes des rois effectivement symbolisent le sacrifice du Christ. Ainsi retrouve-t-on logiquement le thème en place privilégiée dans les absides, ici à la cathédrale de Noyon, mais encore sur la châsse orfévrée de Cologne ou dans d'autres églises comme les fresques des absides de Saint-Pierre-les-Églises ou de Santa Maria de Taúl et de Santa Maria de Esteri d'Àneu. Alors là, pour l'accent catalan, donc voici Santa Maria de Taúl en l'occurrence. En outre, l'agneau qui décore dès le dernier quart du XIIe siècle la clé de voûte de l'abside, associé aux figures qui devaient être situées par la suite au début du XIVe siècle en partie intermédiaire de l'élévation, les prophètes, peut-être les apôtres, la Vierge et les rois mages, permet de souligner la dimension eucharistique et sacrificielle du lieu, renvoyant au chapitre 5 de l'Apocalypse, qui décrit l'intronisation et l'épiphanie glorieuse de l'agneau du sacrifice, le Christ. Ici, si l'édicule de chasse était bien situé au fond de l'abside, derrière l'autel matutinal, la clé de l'Agnus Dei le surmontait donc, au lieu de sommer le maître-autel, qui dès le XIIe siècle était déjà bien plus avancé vers l'Occident. Les clés de voûte des troisièmes travées de collatéraux, David au nord et Saint-Jean au sud, confirment cette thématique déjà évoquée par leur seul choix à la fin du XIIe siècle dans le programme initial. La conjonction des thèmes que sont les représentants des fondements de l'Église prophétisée et l'Eucharistie avec les reliques de l'évangélisateur et patron de la ville de Noyon, saint Éloi, permet d'insister sur leur symbolique ecclésiale et souligne l'espace le plus sacré de l'Église tout en fournissant au chapitre noyonnais un moyen d'appuyer son universalité institutionnelle. Le cœur et le sanctuaire deviennent ainsi la métaphore de l'institution, tout en s'organisant autour de la liturgie. Alors, un aménagement ou une campagne de construction en correspondance avec un transfert de reliques dans une nouvelle chasse n'est évidemment pas quelque chose de singulier, mais quelque chose qui se retrouve fréquemment. À Noyon même, la construction du chœur est financée alors qu'elle a déjà débuté par l'ostentation et l'élévation des reliques de Saint-Éloi en 1157. Mais nous savons aussi qu'à Saint-Quentin, la date d'ouverture du chantier de la basilique au XIIIe siècle correspond aussi à l'élévation des reliques du saint. À Amiens, la restauration de la cathédrale dans le premier quart du XIIe siècle coïncide aussi avec la translation des reliques du saint patron de la ville, saint Firmin. À Senlis, à proximité donc de Noyon, en 1177, la cérémonie de la translation des reliques précède aussi la reconstruction de saint Frambourg. La particularité noyonnaise ne réside donc pas nécessairement là. Elle réside surtout dans la volonté apparente de reproduire, dès l'origine de la construction de la cathédrale, un modèle spatial carolingien, à savoir un transept de façade, un porche couvert qui masque largement les portails, la suppression des tribunes et des niveaux qui scandent le volume intérieur du massif de façade, les bras du transept orientaux semi-circulaires, l'élévation du chœur à quatre niveaux, tels qu'à Aix-la-Chapelle, ou encore le culte de Saint-Michel, ou la présence d'un autel dédié à la Sainte-Croix. Mais ce modèle carolingien, à Noyon, est dilaté en de plus vastes proportions, au-delà des limites anciennes du rempart antique. Les choix même de l'iconographie du sanctuaire, dès le dernier quart du XIIe siècle, révèlent des réminiscences romaines, byzantines et carolingiennes qui inscrivent la cathédrale dans la tradition de l'Église. Sûrement faut-il voir dans ces sélections initiales, reproduites et développées en plus au XIVe siècle, la volonté de rappeler le lien entre l'Empire carolingien et la ville de Noyon. Le couronnement de Charlemagne a en effet été célébré en la seconde cathédrale de la ville de Noyon. En outre, l'évêque à Noyon acquiert dès l'époque carolingienne un grand pouvoir temporel, étant appelé dans les capitulaires à coopérer politiquement avec les officiers laïcs de la couronne. En outre, le clergé noyonnais, au nom de la défense de ses traditions locales, refuse de se voir imposer la réforme grégorienne, preuve déjà de la persistance de cet état d'esprit carolingien. Ainsi, pour conclure, l'exemple de la cathédrale de Noyon illustre ce processus de sanctuarisation et d'adaptation aux évolutions liturgiques et historico-religieuses d'un édifice. Le chevet est dans un premier temps conçu en fonction d'une liturgie qui laisse la large place au chapitre, dont le chœur liturgique descend largement dans une nef réduite pour les fidèles. L'espace le plus sacré de l'autel est valorisé par le traitement architectural de la première travée droite du chœur. Les vitraux, sans doute, diffusent une lumière diaphane, offrant une vision paradisiaque de l'espace sacré du lieu, respectée par l'ouverture visuelle relative des grilles du chancel. L'iconographie porte l'accent sur la dimension christologique et eucharistique du sanctuaire. Mais dans un second temps, dès 1253, afin de souligner l'importance des reliques saintes conservées en la cathédrale et d'asseoir son autorité religieuse, l'évêque et le chapitre souhaitent magnifier le sanctuaire et le modifier. Un nouveau décor est conçu, valorisant les reliques saintes. La symbolique christologique est encore soulignée. La couleur des peintures dématérialise l'espace et augmente la luminosité. Et fait du sanctuaire le symbole de Dieu incarné. Dans le même temps, l'objet étant d'encourager les pèlerins dans leur cheminement vers et dans la cathédrale, le chœur liturgique est reculé vers la croisée du transept, laissant davantage d'espace aux fidèles dans la nef, ce depuis les consignes de l'Atran IV. Les clôtures non occultantes, qui sont conservées depuis la fin du XIIe siècle, favorisent encore la visibilité des reliques saintes vers lesquelles s'orientent les pèlerins. Ainsi, deux périodes distinctes de l'histoire religieuse noyonnaise ont conditionné deux types de sanctuarisation, mais dans tous les cas a perduré l'idée d'insister sur l'image qui renvoie à l'un, puisque pour reprendre Hugues de Saint-Victor, l'imago est le seul médium efficace pour passer des parties fragmentées du savoir à la perception du tout. J'achèverai en vous montrant brièvement ici, voilà, le nouvel autel tel qu'il a été consacré il y a à peine un an. La table d'autel qui était incrustée dans le dallage. Alors nous ne savons bien entendu pas s'il s'agissait du maître-autel de la table du maître-autel initial, même si d'un collègue d'une grande renommée a estimé qu'il s'agissait de celle-ci, rien n'en témoigne pour l'instant. Et le mobilier liturgique actuel, qui voilà, et la consécration avec l'onction de l'autel et l'encensement de l'autel, qui permet à cette cathédrale et à son mobilier liturgique de se poursuivre tel que depuis le XIIe siècle. Merci.
Va a resultar un poco complicado hacer una breve síntesis de todas estas aportaciones. Pero yo diría que en su presentación de la Catedral de Noyon nos ha ofrecido realmente una síntesis de lo que es un viaje al pasado, de la metodología que se puede seguir en relación con los estudios de las catedrales también, es decir, todo aquello que hay que observar, desde los bienes materiales, los bienes arqueológicos, la observación arquitectónica in situ para intentar evidenciar las modificaciones que se han producido a través de la pérdida de materiales litúrgicos, como podían ser rejerías, cierres, canceles, etc. Y luego la aproximación a la cuestión de la liturgia, que en definitiva es lo que explica todo lo que hemos visto. Es un caso realmente, tal vez no excepcional, sino que, como bien ha dicho, hay otros casos en el que se producen modificaciones en catedrales de los siglos góticos, pero yo creo que sí que es excepcional porque, entre otras cosas, conservamos un magnífico jubé y realmente estos jubés de los que se habla en todas las catedrales de Francia, pocas veces tenemos ocasión de ver un jubé, aunque sea en estado fragmentario, pero tan bien conservado como este. Yo luego le preguntaré a ver si no hay ningún plan para este jubé, exactamente ahora dónde se encuentra, y de la misma forma que se ha restituido lo que es este altar, supuestamente altar originario, a su espacio primitivo, si no hay ninguna posibilidad de hacer no una restitución del jubé en su emplazamiento, eso sería imposible desde el punto de vista litúrgico actual, pero sí hay otro plan similar, no sé, con una mejor presentación, no sé si museística o en el contexto de la catedral en cualquier caso. Esta es la pregunta que le he dicho ahora, pero iba para un poco más tarde. En todo caso, de su aportación me parece muy relevante el discernir en el estudio de una catedral lo que son las diferentes fases constructivas y litúrgicas. En esta primera fase, ligada a finales del siglo XII y luego XIII, una construcción, unos usos, una liturgia, luego con la aparición y las nuevas necesidades de contextualizar lo que sería la arqueta con las reliquias de San Eloy, una modificación de este espacio que tiene claramente, además de una función litúrgica y ritual, un significado especialmente político valioso para lo que era la comunidad canonical. Si les parece, voy a la pregunta. Est-ce qu'il y aura la possibilité d'aménager le Jubé autrement qu'il se trouve actuellement, autre part, je ne sais pas, un musée annexe à la cathédrale, c'est-à-dire de le mettre en valeur en définitive?
Alors le Jubé actuellement est présenté a été remonté il y a longtemps maintenant, et il a été remonté dans une salle qui appartient au cloître, qui est l'arrière-sacristie, qui a été pensée, reconstruite après les destructions de manière à correspondre exactement à la largeur du jubé. Donc l'entrecolonnement qui était présent à la croisée du transept a été partiellement reproduit dans cette salle. Et le jubé a été entièrement reconstruit, les parties manquantes ayant été reconstituées de manière à ce que l'on les distingue de celles qui ont été des fragments qui ont été retrouvés et qui ont été remontés. Donc cette partie est toujours accessible au public, c'est toujours ouvert, malheureusement pas à l'emplacement initial, mais à proximité, en tout cas, et en élévation telle qu'il fut. Voilà.
Bueno, creo que todos deseamos que tengan la fortuna de que se les conceda este proyecto y la subvención para poder estudiar las pinturas, porque no cabe duda que hay tal relación entre el programa de las pinturas y la escultura y la liturgia y las claves de bóveda, etcétera, que no vendrá a hacer, que confirmará todo lo que ya saben en este momento.
Si
on désire que vous ayez la posibilité de faire ce projet, d'avoir les euros nécessaires pour pouvoir aboutir ce projet. Oui. ¿Tienen preguntas para la conferenciante? Sí, Tom.
En fait, ce qui se passe, c'est que la construction a été relativement lente. Elle a commencé par l'est, et dès le début de la construction, visiblement, d'après la richesse des portails sculptés, Saint-Pierre et Saint-Eutrope, on a souhaité dès le départ pouvoir permettre aux pèlerins cet accès aux reliques, donc par les portails du transept, puisque les portails occidentaux n'étaient pas construits. On avait juste borné le chantier à un moment donné, et après la nef a ensuite continué vers cette borne. Mais quand les portails occidentaux ont été construits, dont vous parlera Arnaud tout à l'heure, les thématiques de ces portails ont repris les thématiques des portails du transept à l'identique, avec un portail hagiographique au nord et un portail centré sur la Vierge et les prophètes au sud, très exactement comme ceux du transept. Et La question a beaucoup circulé sur le cheminement justement des pèlerins autour, parce que ce cheminement se faisait extramuros, puisqu'il partait de l'église Saint-Pierre, qui donc faisait face à ce portail, et surtout ce qui perturbait, c'était que la sortie se fasse, non pas, pour l'évêque en l'occurrence, non pas du côté du palais épiscopal, mais à l'extérieur de la chapelle et de la muraille, donc à l'extérieur du palais épiscopal. Mais l'évêque accédait, lui, à la cathédrale par la chapelle, par une tourelle qui faisait la jonction entre la chapelle et le bras sud du transept. Et c'était un cheminement totalement différent. Et comme ça, effectivement, justement, les pèlerins ne passaient pas par les lieux du pouvoir de l'évêque. Voilà. A priori, la chose est toujours en cours d'étude, puisqu'actuellement, je travaille sur la chapelle épiscopale et sur la jonction entre cette chapelle et, sur la place de cette chapelle dans les processions liturgiques. Mais il n'y a pas de texte, donc c'est assez difficile pour l'instant de solutionner.
Una pregunta más. ¿Podemos esperar en los próximos años que añadan a toda la cuestión litúrgica y la sacralidad la posibilidad de enterramientos alrededor del espacio del presbiterio? Y había aussi la posibilidad de continuar votre étude a través de las particularidades de sepulcros que se disposaient à l'entourage du presbytère. Si il y en avait, je ne sais pas s'il y en avait d'abord. Vous croyez que c'est une possibilité?
Il y avait beaucoup, beaucoup de sépulcres, mais tous ôtés et dispersés dans l'ensemble de la cathédrale quand on a redallé la cathédrale et aussi sous le porche de la cathédrale. En revanche, il est possible encore de réfléchir sur certaines inhumations, notamment en étudiant le manuscrit du chanoine Levasseur du XVIIe siècle, qui lui est l'un des seuls à évoquer notamment le pourquoi du choix de certains emplacements pour les chanoines, et surtout pour les doyens et les évêques. Et c'est a priori actuellement encore la possibilité.
Vous avez de la chance.
Mais pas de texte. Très peu.
Alguna pregunta más? Sí. Por favor. Est-ce que l'identification du roi David a été mise en question? Il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre qui ne soit pas le roi David, couronné dans ce cas. Et d'autre part, elle a cru remarquer qu'il se dispose, le roi David et aussi Saint Jean, en regardant vers ce qui serait l'extérieur du déambulatoire, c'est-à-dire ne regardant pas vers le presbytère. Est-ce que c'est correct?
C'est effectivement encore à chercher, parce que, comme je le disais tout à l'heure, de nombreuses clés de voûte montrent les trous qui témoignent de l'absence des sculptures de ces clés de voûte qui amputent très largement la lecture de l'ensemble du programme iconographique sculpté sur les clés de voûte. En revanche, pour ce qui est du roi David, il y a une inscription où il est marqué, l'inscription que j'ai dite tout à l'heure, Rex David, qui est inscrite, qui permet l'identité.
Bon, alors, moi, je ne sais pas si elle pense à un roi. Tu penses, estás pensando en un rey. Que...
No lo sé.
No lo sé, tampoco.
Extraña con respecto a otras representaciones, pero no lo pongo en duda. Es
Elle dit que la façon de représenter, de composer l'image avec le mouvement du corps ou de la jambe est particulièrement différent à ce qui est habituel, d'après elle, du roi David.
D'accord. Alors, il faut effectivement encore regarder, effectivement, pour comprendre pourquoi.
Enfin, je ne sais pas, je crois qu'on a une grande imagination, mais comme vous avez dit que c'était le lieu, la cathédrale, de la deuxième couronnation de Charlemagne. Et ici, on a un Saint Charlemagne, je ne sais pas quoi vous dire, hein, mais enfin, l'imagination est un peu
peut-être
libre.
Effectivement, c'est une piste, effectivement, aussi à chercher. Dans ce cas, effectivement, le lien avec Charlemagne, puisqu'il était aussi représenté sur un tableau qui était renouvelé à chaque élection d'un nouvel évêque, intronisation d'un nouvel évêque, l'évêque en question réoffrait le tableau de Saint Charlemagne. Donc effectivement, c'est intéressant de réfléchir à cette question et justement à cette confrontation entre Charlemagne et la mise en place de l'iconographie tournée vers l'Eucharistie. Effectivement. J'ai pas entendu.
Et dans le cœur enchanté, Laudes Regiae.
Oui.
Oui.
J'ai pas entendu.
Il dit que dans le Laudes Regiae, on cite le Sauveur, l'agneau, le roi David aussi. Donc c'est un argument,
d'accord.
Saint Jean, c'est un argument en défense du roi David, je pense. C'est ça qu'il suggère, non? Tous les points de cette histoire, tous les points de tout. Il n'y a aucun doute sur l'identification du roi David. Hein? Parce que si on chante le Laudes Regiae ou on cite le roi David, il y a une exacte concordance entre le rituel et le chant, oui, et sa projection en image dans la clé de voûte. Voilà.
Je le pensais aussi, mais bon, je le pensais effectivement aussi. Et donc, merci de m'ôter le doute.